Germaine de Staël, Delphine, partie 3, lettres 38 à 43 comprises. Lettre 38. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 5 mai 1791. J'ai joui jusqu'au fond du cœur, ma chère Louise, d'avoir réussi à réconcilier Madame de Lébancé avec sa famille. Mais ce sentiment est troublé maintenant par une inquiétude vive. Léon s'est arrivé hier matin de Mondeville. Je m'attendais à le voir dans la journée, lorsqu'à 8 heures du soir, un homme à cheval est venu m'annoncer de sa part qu'il ne pourrait pas venir. Et cet homme à qui j'ai parlé m'a dit qu'il avait laissé Léonce dans une assemblée très nombreuse, chez Madame du Marsay. Madame de Mondeville n'y était pas, et cependant, en envoyant chez moi, il a donné l'ordre qu'on ne lui amenât sa voiture qu'à 1 heure du matin. Comment se peut-il qu'il se soit si facilement résolu à ne pas me revoir après 15 jours d'absence? Comment ne m'a-t-il pas écrit un seul mot? Serait-il fâché de ma démarche pour Madame de Lébancé quand il y a consenti, quand il en sait l'heureux succès? Louise, j'ai déjà beaucoup souffert. Mais si le cœur de Léon se refroidissait pour moi, vous qui blâmez ma conduite, trouveriez-vous que le ciel me punit justement? Non, vous ne le penseriez pas. Non, le plus grand des crimes, si je l'avais commis, serait ainsi trop expié. Mais pourquoi ces douloureuses craintes? Ne peut-il pas avoir été retenu par une difficulté, par une affaire? Ah, s'il commence à calculer les affaires et les obstacles, si je ne suis plus pour lui qu'un des intérêts de sa vie, placé comme les autres à son temps dans la mesure de ses droits, je ne consentirai point à ce prix au genre d'existence qu'il m'a forcé d'adopter. C'est en inspirant un sentiment enthousiaste et passionné que je puis me relever à mes propres yeux, malgré le blâme auquel je m'expose. Si Léonce me réduisait à son estime, à ses soins, à son affection raisonnée, non, la douleur et la gloire des sacrifices vaudraient 1000 fois mieux. Louise, je me fais mal en développant cette idée, et je m'efforce en vain de m'occuper d'aucune autre. Madame d'Hervin m'écrit qu'elle sera de retour à Bellerive avant 3 semaines pour me remettre sa fille et prendre le voile. Monsieur de Serbellane, n'espérant plus la faire changer de dessein, s'est établi en Angleterre, où il vit plongé dans la tristesse la plus profonde. Homme généreux et infortuné. Louise, quelquefois je me persuade que l'être suprême a abandonné le monde aux méchants, et qu'il a réservé l'immortalité de l'âme seulement pour les justes. Les méchants auront eu quelques années de plaisir, les cœurs vertueux de longues peines. Mais la prospérité des uns finira par le néant, et l'adversité des autres les prépare aux félicités éternelles. Douce idée, qui consolerait de tout hors de ne plus être aimée, car l'imagination elle-même, alors, ne pourrait se former l'idée d'aucun bonheur à venir. Mon ami, combien je suis touchée de la dernière lettre que vous m'avez écrite. Vous revenez à me demander avec instance tous les détails de ma vie, de cette vie que vous désapprouvez, et qui retarde sans cesse le moment où je dois vous rejoindre. Ah, c'est vous qui savez aimer. C'est vous qui vous montrez toujours la même, qui n'avez ni caprice, ni prévention, ni négligence. C'est vous. Hélas, croirais-je déjà que ce n'est plus lui? Lettre 39. Madame d'Artena à Madame d'Albémare. Paris, ce 5 mai. Il m'est vraiment douloureux, ma chère Delphine, d'être toujours chargée de vous inquiéter. Mais la délicatesse de Monsieur de Mondeville l'engagerait peut-être à vous cacher ce qui s'est passé hier au soir, et il faut absolument que vous le sachiez. Ma nièce, qui va dîner dans la vallée de Montmorency, remettra cette lettre à votre porte. Je suis arrivée hier chez Madame du Marsay, à peu près dans le même moment que Léonce. Il venait pour annoncer à la maîtresse de la maison que son neveu conserverait son régiment. Elle lui en fit de vifs remerciements et le pria de passer la soirée chez elle. Il s'y refusa. Pendant ce temps, on m'établit à une partie qui m'empêcha de me mêler à la conversation. Il y avait dans la chambre un vrai rassemblement des femmes de Paris les plus redoutables par leur âge, leur aristocratie ou leur dévotion. Et l'on n'y voyait aucune de celles qui s'affranchissent de ces trois grandes dignités par le désir d'être aimable. Léon se s'ennuyait assez à ce que je crois, en attendant que le quart d'heure qu'il destinait à cette visite fût écoulé. Il était debout devant la cheminée à causer avec quatre ou cinq hommes, lorsque votre nom prononcé à demi-voix dans les chuchotements des femmes attira son attention. Il ne se retourna pas d'abord, mais il cessa de parler pour mieux écouter. Et il entendit, très distinctement, ces mots prononcés par Madame du Marsay. « Savez-vous que Madame d'Albémare a été présentée elle-même à Madame de Cernay, le bâtard de sa petite-fille, Madame de Lébancey ? Singulier emploi pour une femme de 20 ans. » Monsieur de Mondeville se retourna d'abord avec impétuosité, mais se retenant ensuite pour mieux offenser par son mépris, il pria lentement Madame du Marsay de répéter ce qu'elle venait de dire. Il articula cette demande avec un accent d'indignation et de hauteur qui fit trembler Madame du Marsay et les témoins d'une scène qui commençait ainsi. Madame du Marsay se déconcerta. Madame de Thézin, qui la protège dans sa carrière de méchanceté et dont le caractère a plus d'énergie que le sien, la regarda pour lui faire sentir qu'elle devait répondre. Madame du Marsay reprit en disant « Vous savez bien, monsieur, qu'on ne peut pas regarder Madame de Lébancey comme légitimement mariée. Ainsi, ainsi. » « Je sais, interrompit monsieur de Mondeville, par quelles bizarres idées vous imaginez qu'une femme qui a fait divorce selon les lois établies dans le pays de son premier mari n'a pas le droit de se regarder comme libre. Mais ce que je sais, c'est qu'il doit vous suffire que Madame d'Albémare reçoive Madame de Lébancey pour vous tenir, pour honorer, si Madame de Lébancey venait chez vous. » Madame du Marsay n'avait plus la force de se défendre. Elle pâlissait et cherchait des yeux un appui. Madame de Thézin sentit, avec son esprit ordinaire, que pour intéresser une partie de la société qui était présente à la cause de Madame du Marsay, il fallait y faire intervenir l'esprit de parti. « Quant à moi, dit-elle alors, ce que je ne concevrai jamais, c'est pourquoi Madame d'Albémare reçoit habituellement un homme qui a des opinions politiques aussi détestables que celles de Monsieur de Lébancey. » Madame du Marsay, reprit vivement Monsieur de Mondeville, « sait mieux que personne les motifs qu'on peut avoir pour se lier avec Monsieur de Lébancey. C'est à lui qu'elle doit que Monsieur d'Orsan, son neveu, conserve son régiment. Et c'est à la prière seule de Madame d'Albémare que Monsieur de Lébancey s'en est mêlé, car il ne connaît point Madame du Marsay. J'ai reçu 20 billets d'elle pour engager ma cousine, Madame d'Albémare, à solliciter Monsieur de Lébancey. Elle l'a fait, elle y a réussi. Et quand son adorable bonté l'engage à réunir une famille divisée, c'est Madame du Marsay qui se hasarde à blâmer la conduite de ma cousine. Mais je m'arrête, dit-il, c'en est assez. Il me suffit d'avoir prouvé à ceux qui m'écoutent que les propos inspirés par l'ingratitude et l'envie méritent à peine qu'un honnête homme y réponde. » Monsieur de Fierville sentit alors une sorte de honte de laisser ainsi humilier son amie Madame du Marsay. Il avait jeté un coup d'œil sur Monsieur d'Orsan pour l'engager à protéger sa tante. Mais comme il persistait à se taire, Monsieur de Fierville lui-même, quoique âgé de 70 ans, ne put s'empêcher de dire à Léonce Vous aurez un peu de peine, monsieur, si vous voulez empêcher qu'on ne parle des imprudences sans nombre de madame d'Albémare. Il ne suffit pas pour cela de faire taire les femmes. » Léonce, à ce mot, rougit et pâlit de colère. Impatient de s'en prendre à quelqu'un de son âge, il s'avança au milieu du cercle, et quoiqu'il parlât à M. de Fierville, il fixait M. d'Orsan. Vous avez raison, dit-il. Les vieillards et les femmes n'ont rien à faire dans cette occasion. Et j'attends qu'un jeune homme soutienne ce que la faiblesse de votre âge vous a permis d'avancer. » Ces paroles furent prononcées avec un geste de tête d'une fierté inexprimable. Un profond silence y succéda. Ce silence était embarrassant pour tout le monde, mais personne n'osait le rompre. M. d'Orsan, quoique brave, ne se souciait point de se battre avec Léonce, et probablement ensuite avec M. de Lébancé pour les propos de sa tante. Il prit un air distrait, caressa le petit chien de Mme du Marsay, le seul qui, au milieu de cette scène, osa faire du bruit, comme à l'ordinaire, et s'approcha avec empressement de la partie où j'étais, comme s'il eût été très curieux de mon jeu. Mme de Thézin, vivement irritée du triomphe de Léonce, se leva brusquement et traversa le cercle pour aller parler à M. d'Orsan. Son mouvement fut si remarquable que tout le monde comprit qu'elle voulait décider le neveu de Mme du Marsay à répondre à Léonce. Une femme qui s'intéresse à M. d'Orsan tendit les bras involontairement comme pour arrêter Mme de Thézin. Elle ne s'en aperçut seulement pas et, prenant M. d'Orsan à part, elle lui parla bas avec une grande activité. Léonce, qui ne perdait de vue rien de ce qui se passait, se retourna vers Mme du Marsay et lui dit avec un sourire d'une orgueilleuse amertume : J'accepte, madame, l'invitation que vous m'avez faite. Je reste ici ce soir. Je veux laisser du temps, ajouta-t-il d'une voix plus haute, à tous ceux qui délibèrent. Il sortit alors pour donner un ordre à ses gens, et salua en allant vers la porte le tête-à-tête de Mme de Thézin et de M. d'Orsan avec un dédain qui véritablement devait les offenser. Pendant l'absence momentanée de Léonce, quelques femmes enhardies parlèrent un peu plus haut et se hâtèrent de dire « Vous voyez que M. de Mandeville aime Mme d'Albémare. Il est bien clair qu'elle répond à son amour. Elle ne s'est établie à Belle-Rive que pour être plus libre de le recevoir. » Léonce rentra. Elles se turent subitement, avec un effroi ridicule. Que pouvait-elle craindre? Mais M. de Mandeville a un ascendant si marqué sur tout le monde que les âmes qui ne sont point de sa trempe redoutent sa colère, sans même se faire une idée de l'effet qu'elle peut avoir. Il continua le reste de la soirée à examiner Mme du Marsay, Mme de Thézin et M. d'Orsan. Il réunissait habilement dans son regard l'observation et l'indifférence. M. d'Orsan, qui s'était replacé près de notre parti, offrit d'en être et s'y établit. Léonce vint deux fois près de la table, M. d'Orsan ne lui dit rien. Et, quand le jeu fut fini, il partit. Léonce alors s'en alla. Je restai, parce que je vis bien que les amis de Mme du Marsay, qui ne s'étaient point encore retirés, se préparaient à se déchaîner contre vous. Mme de Thézin commença par déclarer que M. d'Orsan devait se battre avec M. de Mandeville, puisqu'il avait insulté sa tante. Je pris la parole avec chaleur, en disant que rien ne me paraissait plus mal dans une femme que d'exciter les hommes au duel. Il y a tout à la fois, ajoutai-je, de la cruauté, du caprice et peu d'élévation dans ce désir de faire naître des dangers qu'on ne partage pas, dans ce besoin orgueilleux d'être la cause d'un événement funeste. C'est bien vrai, s'écria un vieil officier dont la bravoure ne pouvait être suspecte et qu'on n'avait pas remarqué, parce qu'il s'était endormi derrière la chaise de Mme du Marsay. Il se réveilla comme je parlais et, répétant encore une fois « C'est bien vrai », il ajouta « Si une femme m'avait obligé à me battre, je le ferais. Mais le lendemain, je me raccommoderai avec mon adversaire et je me brouillerai avec elle. » Madame de Thézin n'insista pas, et vous pouvez être bien sûr qu'il ne sera plus question de ce duel dont la nécessité n'existait que dans sa tête. Elle se mit alors à vous blâmer d'une manière générale, mais très perfide. Je la combattis sur tout ce qu'elle disait. À la fin, plusieurs femmes se joignirent à moi, et mon vieux officier, qui ne vous a vu qu'une fois, sans entendre rien au sujet de notre conversation, répétait sans cesse des exclamations sur vos charmes. Ce que j'ai remarqué, cependant, c'est à quel point on est aigri sur tout ce qui tient aux idées politiques. Votre liaison avec M. de Lébancey vous fait plus d'ennemis que votre amour pour Léonce, et c'est à cause de vos opinions présumées qu'on sera sévère pour vos sentiments. Je sais bien qu'on n'obtiendra jamais de vous de renoncer à un de vos amis, mais évitez donc au moins tout ce qui peut avoir de l'éclat. Ne rendez pas même de service lorsqu'ils sont de nature à être remarqués. Dans un temps de parti, une jeune femme dont on parle trop souvent, même en bien, est toujours à la veille de quelque chagrin. D'ailleurs, il n'y a rien qui soit également bon aux yeux de tout le monde. Quand une action généreuse est, pour ainsi dire, forcée par votre situation, que c'est votre père, votre frère, votre époux que vous secourez, on l'approuve généralement. Mais si la bonté vous entraîne hors de votre cercle naturel, celui que vous servez vous en sait gré pour le moment. Mais tous les autres éprouvent un sentiment durable d'humeur et de jalousie qui leur inspire tôt ou tard ce qu'il faut dire pour empoisonner ce que vous avez fait. Enfin, Léonce a été trop peu maître de lui en vous entendant blâmer. Ce n'est pas ainsi que l'on sert utilement ses amis. Venez me voir demain, je vous en prie. Je fermerai ma porte et nous causerons. Il est encore temps de remédier au mal qu'on a pu dire de vous. Mais il devient absolument nécessaire que vous vous remettiez dans le monde. Cette vie solitaire avec Léonce vous perdra. On s'occupe de vous comme si vous étiez au milieu de la société. Et vous ne vous défendez pas plus que si vous viviez à 200 lieues de Paris. Ma chère Delphine, laissez-vous donc conduire par votre vieil ami. Toute la science de la vie est renfermée dans un ancien proverbe que les bonnes femmes répètent. Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Un grand mystère est contenu dans ce peu de mots. Vous en êtes une preuve. Vous êtes supérieure à tout ce que je connais. Mais votre jeunesse est cause que votre esprit même ne gouverne encore ni votre imagination ni votre caractère. Je voudrais vous épargner l'expérience qui n'est jamais que la leçon de la douleur. Adieu, ma jeune amie. À demain. Lettre 40. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Bellerive, 6 mai. Après avoir reçu la lettre Madame d'Artena que je vous envoie, ma chère Louise, j'attendais l'arrivée de Léonce avec une grande émotion. Je ne pouvais me remettre de l'effroi que m'avait causé le récit de ce qui s'était passé chez Madame du Marsay. J'étais touchée du vif intérêt que Léonce avait montré pour ma défense. Mais j'éprouvais je ne sais quel sentiment de peine en réfléchissant à l'importance qu'il avait mise à de misérables ennemis. Et je craignais que, tout en les repoussant, ils ne conservaient de ce qu'ils avaient dit contre moi une impression défavorable. Ses idées s'effacèrent dès qu'il entra dans ma chambre. Il était ravi de me revoir après 15 jours d'absence. Il m'exprima un enthousiasme plein d'illusions sur ma figure qu'il prétendit embellie, et je me rassurai d'abord. Cependant, quand je lui parlais de la soirée de la veille, je vis qu'il en était malheureux, mais par des motifs pleins de générosité pour moi, Madame d'Artenat vous a instruite de tout, me dit-il. Ne croit-elle pas que je vous ai fait du tort dans le monde en parlant de vous avec trop de chaleur ? Elle espère, répondis-je, qu'on pourra réparer une imprudence qu'il me serait bien doux de vous pardonner si vous n'aviez exposé que moi. Hélas, reprit-il alors, depuis quelque temps j'ai toujours tort. Mon cœur est dans une agitation continuelle. Il faut, en votre présence, lutter contre l'amour qui me consume, et je m'abandonne, quand je ne vous vois pas, à des violences condamnables. Dans tout ce que j'ai fait, il n'y avait de raisonnable que d'appeler une circonstance qui pût me délivrer de la vie. Il prononça ces mots avec un accent si sombre que je vis dans l'instant qu'une scène cruelle me menaçait. J'essayai de la détourner en lui parlant de M. de Lébancey qui était allé le voir ce matin pour le remercier de sa conduite chez Mme du Marsay. On la lui avait répétée le soir même. M. de Lébancey me répéta deux fois Léonce, comme si ce nom augmentait son trouble. Je l'ai vu. C'est sans doute un homme distingué. Mais je ne sais par quel hasard il m'a dit tout ce qui pouvait me faire souffrir davantage. J'interrogeai Léonce sur sa conversation avec M. de Lébancey. Il ne me la raconta qu'à demi. Il me parut seulement qu'elle avait eu surtout pour objet, de la part de M. de Lébancey, la nécessité de mépriser l'opinion quand elle était injuste. Après avoir appuyé cette manière de voir par tous les raisonnements d'un esprit supérieur, il avait fini par ces paroles remarquables que Léonce me répéta fidèlement. Je m'étais un moment flatté, lui a-t-il dit, que la félicité dont vous avez été privée vous serait rendue. Je croyais que l'Assemblée constituante établirait en France la loi du divorce, et je pensais avec joie que vous seriez heureux d'en profiter pour rompre une union formée par le mensonge, et pour lier votre sort à la meilleure et à la plus aimable des femmes. Mais on a renoncé dans ce moment à ce projet, et mon espoir s'est évanoui, du moins pour un temps. Je voulus interrompre Léonce et lui exprimer l'éloignement que j'aurais pour une semblable proposition si elle était possible. Mais à l'instant, il me saisit la main avec une action très vive. « Au nom du ciel, ne prononcez pas un mot sur ce que je viens de vous dire, » s'écria-t-il. « Vous ne pouvez pas prévoir l'effet d'un mot sur un tel sujet. Laissez-moi. » Il descendit alors sur la terrasse et marcha précipitamment dans l'allée qui borde mon ruisseau. Je le suivis lentement. En revenant sur ses pas, il me vit et se jetant à genoux devant moi. « Non, s'écria-t-il, il fallait ne pas te quitter, mais te revoir est une émotion si vive. Il me semble que ta céleste figure a pris de nouveaux charmes qui m'enivrent d'amour et de douleur. Qu'est-il arrivé depuis 15 jours ? Que s'est-il passé hier? Que m'a dit M. de Lébancey? Qu'ai-je éprouvé en l'écoutant? « Ah, Delphine, » dit-il, en s'appuyant sur ma main, et, chancelant en se relevant, je voudrais mourir. « Viens, conduis-moi sur le banc, vers ces derniers rayons du soleil, que je le regarde encore avec toi. » Et il me pressa sur son cœur, avec un transport si touchant, que les anges l'auraient partagé. Reste là, dit-il à Delphine. Seulement quand tu restes là, je cesse de souffrir. Ah, dis-le-moi, qu'arrivera-t-il de nous, de notre amour, de la fatalité qui nous sépare, de mon caractère aussi, car au milieu de la passion la plus violente, peut-être me poursuivrait-il. Que deviendrons-nous ? J'aurais pu te posséder, tu voulais être ma femme. Je pourrais être heureux encore si ton inflexible cœur. Mais non, ce n'est pas là mon sort. Je te verrai calomnié pour le sentiment qui nous lie, et ce sentiment, imparfait dans ton âme, me livrera sans cesse aux tourments que j'endure. Qui m'en soulagera? Monsieur de Lébancey ne m'a-t-il pas rendu 1000 fois plus malheureux? Je ne sais ce que j'éprouve. Je me sens oppressé. S'il y avait de l'air, je souffrirais moins. Et, tournant sa tête du côté du vent, il le respirait avec avidité, comme s'il eût voulu appeler un sentiment de repos et de fraîcheur pour calmer les pensées brûlantes qui le dévoraient. Je lui pris la main, je m'assis à ses côtés, et pendant quelques instants, il me parut plus tranquille. C'était le premier beau soir du printemps. Je revoyais Léonce. Je sentais en moi le plaisir de vivre. Il y a dans la jeunesse de ces moments où, sans aucune nouvelle raison d'espoir, au milieu même de beaucoup de peines, on éprouve tout à coup des impressions agréables qui n'ont point d'autre cause qu'un sentiment vif et doux de l'existence. « Oh, Léonce, lui dis-je, ni ce ciel, ni cette nature, ni ma tendresse ne peuvent rien pour ton bonheur. » « Rien, me répondit-il, rien ne peut affaiblir la passion que j'ai pour toi. Et cette passion à présent me fait mal, toujours mal. Tes yeux qui s'élèvent vers le ciel comme vers ta patrie, tes yeux implorent la force de me résister. Delphine, dans ces étoiles que tu contemples, dans ces mondes peut-être habités, s'il y a des êtres qui s'aiment, ils se réunissent. Les hommes, la société, leur vertu même ne les sépare point. Cruel, m'écriai-je, et ne me suis-je donc pas donné à toi? Ai-je une idée dont tu ne sois l'objet? Mon cœur bat-il pour un autre nom que le tien? Va, reprit Léonce, puisque ton amour est moins fort que ton devoir, ou ce que tu crois ton devoir, quel est-il cet amour? Peut-il suffire au mien? Et il me repoussa loin de lui, mais avec des mains tremblantes et des yeux voilés de pleurs. Delphine, ajouta-t-il, ta présence, tes regards, tout ce délire, tout ce charme qui réveille tant de regrets, c'en est trop. Adieu. Et, se levant précipitamment, il voulut s'en aller. Quoi, lui dis-je en le retenant, tu veux déjà me quitter? Est-ce ainsi que tu prodigues les heures qui nous restent, les heures d'une vie de si peu de durée pour tous les hommes? Hélas, peut-être bien plus courte encore pour nous. Oui, tu as raison, répondit-il en revenant. J'étais insensé de partir. Je veux rester, je veux être heureux. Pourquoi suis-je dans cet état? Pourquoi, continuait-il, en mettant ma main sur son cœur, pourquoi y a-t-il là tant de douleurs? Ah, je ne suis pas fait pour la vie. Je me sens comme étouffé par ces liens. Si je savais les rompre tous, tu serais à moi. Je t'entraînerais. Monsieur de Lébancey, pourquoi m'as-tu fait connaître cet homme? Il a des idées insensées sur cette terre où règne l'opinion, cette ennemie triomphante et dédaigneuse. Mais ces idées insensées troublent la tête, les sens. Je ne suis plus à moi. Je ne peux plus guider mon sort. Si dans un autre monde nous conservons la mémoire de nos sentiments, sans le souvenir cruel des peines qui les ont troublés, si tu peux croire à cette existence, ô mon ami, hâtons-nous de la saisir ensemble. Il faut renverser ces barrières qui sont entre nous. Il faut les renverser par la mort si la vie les consacre. Parle-moi, Delphine. J'ai besoin du son de ta voix, de cette mélodie si douce. Elle calme un malheureux déchiré par son amour et sa destinée. Viens, ne t'éloigne pas. En achevant ces mots, il s'appuya sur un arbre et, passant ses bras autour de moi, il me serra avec une ardeur presque effrayante. Ne sens-tu pas, me dit-il, le besoin de confondre nos âmes? Tant que nous serons deux, ne souffriras-tu pas? Si mes bras te laissent échapper, N'éprouveras-tu pas quelque douleur qui puisse te donner une faible idée des miennes ? Mon émotion était très vive. Je tremblais. Je faisais des efforts pour m'éloigner. Tu pâlis, s'écria-t-il. Je ne sais ce qui se passe dans ton âme. Répond-elle à la mienne ? Delphine, dit-il, avec un accent désespéré. Faut-il vivre ? Faut-il mourir ? Une terreur profonde me saisit. Je voulais m'éloigner, mais les regards, mais les paroles de Léonce me firent craindre de le livrer à lui-même. Je n'avais plus la force de supporter sa douleur. Et cependant, j'étais indignée des dangers auxquels m'exposait sa passion coupable. Tout à coup, me retraçant ce qui avait commencé le trouble de cette journée, je ne sais quelle pensée m'inspira un moyen cruel, mais sûr, de le faire rougir de son égarement. Léon suit, dis-je alors, avec un sentiment qui devait lui en imposer. « Ce que vous voulez, c'est ma honte. Notre bonheur innocent et pur ne vous suffit plus. Vous m'accusez de ne pas vous aimer quand mon cœur est mille fois plus dévoué que le vôtre. Répondez-moi solennellement. Songez que c'est au nom du ciel et de l'amour que je vous interroge. Si pour nous réunir l'un à l'autre, il fallait, comme monsieur et madame de Lébancey, nous perdre dans l'opinion, que feriez-vous ? Léonce frémit, recula, et se tut pendant un moment. Je saisis ce moment et je lui dis : Vous m'avez répondu, et vous osiez me demander de vous sacrifier l'estime de moi-même ? Cruel, interrompit Léonce avec une expression de fureur dont rien ne peut donner l'idée. Non, je n'ai pas répondu. C'est un piège que vous avez voulu me tendre. Vous joignez la ruse à la dureté, et comme les tyrans, vous faites d'insidieuses questions aux victimes. Ce reproche me perça le cœur, et je me repentis de l'avoir mérité. Léonce, lui dis-je alors avec tendresse, ce n'est ni ton silence ni ta réponse qui aurait pu rien changer à ma décision ni à notre sort. Je ne cherche point à trouver dans ton caractère des raisons de résistance. Ah, sous quelque forme que se montrent tes qualités et tes défauts même, je ne puis voir en toi que des séductions nouvelles. Mais ne devais-je pas te rappeler quel joug la nécessité faisait peser également sur nous deux ? Cette nécessité, c'est le devoir, c'est la vertu, c'est tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre. Léonce, écoute-moi. Dieu m'entend. Si tu me fais subir une seconde fois d'indignes épreuves, ou je cesserai de vivre, ou je ne te reverrai plus. Je ne sais, me répondit Léonce, alors profondément abattu. Je ne sais quel est ton dessein. J'ignore ce que le souvenir de ce jour peut inspirer. Si tu pars, je jure, et je n'ai pas besoin d'en appeler au ciel pour te convaincre, je jure de n'y pas survivre. Si tu restes, peut-être ne m'est-il plus possible de te rendre heureuse. Tu souffriras avec moi ou je mourrai seule. Réfléchis à ce choix. Adieu. Et, sans ajouter un seul mot, il s'élança vers la grille du parc. Je n'osai point le rappeler. Je fis quelques pas seulement pour continuer à le voir. Il partit. J'entendis longtemps encore, de loin, les pas de son cheval. Enfin, tout retomba dans le silence et je restai seule avec moi. Mes réflexions furent amères. Je vous en prie, ma sœur, n'y ajoutez rien. Si la destinée, si Léonce me condamne au plus affreux sacrifice, n'en hâtez pas l'instant. Ne précipitez pas les jours, on en donne pour se préparer à la mort. Je me suis commandé de vous dire ce que j'aurais le plus souhaité de cacher. Vous savez, comme moi, tout ce qui peut m'imposer la loi de m'éloigner de Léonce. je n'ai pas voulu repousser l'appui que vous pouvez prêter à mon courage. Mais si Léonce m'épargnait ce cruel effort, s'il consentait à recommencer les mois qui viennent de s'écouler. Ah, ne me dites pas que je ne dois plus m'en flatter. Post-scriptum. Madame Derfin doit arriver dans peu de jours. Elle aussi se réunira sans doute à vous. Qu'obtiendrez-vous toutes les deux de mon cœur déchiré? Lettre 51. Monsieur de Valorbe à Madame d'Albémare. Paris, ce 15 mai 1791. Je suis à Paris, madame, et, ne vous y ayant point trouvé, je me propose d'aller à votre campagne. Je ne sais pas si vous êtes bien aise de mon arrivée. Il ne tiendrait qu'à moi de croire, par quelques mots de votre belle-sœur, que vous n'avez pas un grand désir de me revoir. Il me semble cependant que j'ai des droits à votre bienveillance. Peut-être y aura-t-il de la modestie à réclamer ces droits. Mais je rends justice aux autres et à moi-même. Il faut encore s'estimer très heureux quand la reconnaissance n'est point oubliée. Vous savez avec quelle sincérité, avec quel dévouement je vous suis attachée depuis que je vous connais. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez grand cas de tout cela à Paris, et je serai bien à mon désavantage à côté de tous les gens aimables qui vous entourent. Mais à 30 ans, on a eu le temps d'apprendre que les succès valent peu de choses, et je me consolerai de n'en point avoir si votre bonté pour moi n'en était point altérée. Je me sens triste et ennuyée. Vous seul pouvez m'arracher à cette disposition. Je ne connais que vous pour qui il vaille la peine de vivre. Tout ce qu'on rencontre d'ailleurs est si inconséquent et si absurde. Depuis un jour que je suis ici, j'ai déjà parlé à je ne sais combien de gens impolis, distraits, frivoles, et ne s'occupant sérieusement que d'eux-mêmes. Enfin, ils sont ainsi. C'est moi qui ai tort d'en être impatienté. Je ne suis venu que pour vous chercher. Je ne reste que pour vous. Ne vous effrayez pas, cependant, je ne vous verrai pas tous les jours. J'ai un voyage à faire chez une de mes amies qui durera près d'un mois, et plusieurs autres affaires me prendront du temps. Vous voyez que je veux vous rassurer. Toutefois, en m'exprimant ainsi, je souffre, et vous le croyez bien. Ceux qui se condamnent à paraître calmes n'en sont que plus agités au fond du cœur. Agréez, madame, mes respectueux hommages. A. de Valorbe. Lettre 52. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 18 mai. Je n'ai plus dans ma vie un seul jour sans douleur. Il me semble que mon devoir se montre à moi sous toutes les formes. Le ciel m'avertit par les peines que j'éprouve qu'il est temps de renoncer au dangereux espoir de passer avec Léonce dans la retraite une vie heureuse et douce. Il ne se contente plus du plaisir de nos entretiens. Il cherche en vain à me cacher l'agitation qui le dévore. Tout sert à la trahir. Tantôt il m'accable des reproches les plus injustes. Tantôt il se livre à un désespoir que je n'ai plus la puissance de calmer. Quelle faiblesse de rester encore quand je ne fais plus son bonheur. Monsieur de Valorbe est arrivé hier à Bellerive comme je recevais une lettre de lui qui me l'annonçait. Je n'avais pu en prévenir Léonce. Il était près de 7 heures et je redoutais ce qu'éprouverait mon ami en voyant un inconnu chez moi dans le moment même de la journée où j'ai coutume de le voir seul. Je ne l'avais point instruit à l'avance de la reconnaissance que je devais à M. de Valorbe, afin de n'être dans le cas ni de lui cacher ni de lui apprendre ses sentiments pour moi. La visite de M. de Valorbe m'inquiétait donc beaucoup. Cependant, J'espérais que Léonce ne serait pas assez injuste pour s'en fâcher. Monsieur de Valorbe fut d'abord embarrassé en me voyant. Cependant, il cherchait à me le dissimuler. « Vous savez que c'est un homme qui dispute toujours contre lui-même. Il veut passer pour maître de lui, et c'est un des caractères les plus violents qu'il y ait. Il ne dit pas deux phrases sans exprimer, de quelque manière, son mépris pour l'opinion des autres. Et dans le fond de son cœur, il est très blessé de n'avoir pas dans le monde la réputation qu'il croit mériter. Il est en amertume avec les hommes et avec la vie, et voudrait honorer ce sentiment du nom de mélancolie et d'indifférence philosophique. » En l'écoutant me répéter que rien n'était digne d'un vif intérêt, toujours moi excepté, que parmi les hommes qu'il avait connus, il n'en avait pas rencontré deux qui fussent estimables, je réfléchissais sur la prodigieuse différence de ce caractère avec celui de Léonce. Tous deux susceptibles, mais l'un par amour-propre et l'autre par fierté. Tous les deux sensibles aux jugements que l'on peut porter sur eux, mais l'un par le besoin de la louange, l'autre pour préserver du blâme. L'un pour satisfaire sa vanité, l'autre pour préserver son honneur de la moindre atteinte. Tous les deux passionnés, Léonce pour ses affections, Monsieur de Valorbe pour ses haines. Et ce dernier, quoique honnête homme, au fond du cœur, capable de tout cependant si son orgueil, la douleur habituelle de sa vie, était irrité, il se remettait par degrés, seul, avec moi, de cette timidité souffrante qui est la véritable cause de son humeur. Et il me parlait avec esprit et malignité sur les personnes qu'il connaissait lorsque Léon s'entra. Il ne vit et ne remarqua que Monsieur de Valorbe, dont la figure a de l'éclat, quoique sa tête couverte de cheveux noirs, rabattus sur le front, et son visage trop coloré, lui donnent une expression rude, et que plus on l'observe, plus on est de peine à retrouver la beauté qu'on lui croyait d'abord. Rencontrer un homme jeune chez moi, me parlant avec intimité, était plus qu'il n'en fallait pour offenser Léonce. Sa physionomie peignit à l'instant ce qu'il éprouvait, d'une manière qui me fit trembler. Monsieur de Valorbe soutint quelques moments encore la conversation. Mais quand il s'aperçut que Léon s'affectait de ne pas l'écouter, il se tut et le regarda fixement. Léon lui rendit ce regard, mais avec quel air ? Il était appuyé sur la cheminée et, considérant de haut Monsieur de Valorbe, qui était assis à côté de moi, il ressemblait à l'Apollon du Belvédère lançant la flèche au serpent. Monsieur de Valorbe répondit par un sourire amer à cette expression qu'il ne pouvait égaler. Et sans doute il allait parler si je ne m'étais hâté de dire à Monsieur de Valorbe que Monsieur de Mondeville, mon cousin, était venu pour m'entretenir d'une affaire importante. Monsieur de Valorbe réfléchit un moment et se rappelant sans doute que Mathilde de Vernon, ma cousine, avait épousé Monsieur de Mondeville, son visage se radoucit tout à fait. Il prit congé de moi et salua Léonce qui restait appuyé comme il était sur la cheminée, sans donner un signe de tête ni des yeux qui pût ressembler à une révérence. Monsieur de Valorbe, surpris, voulut recommencer à le saluer pour le forcer à une politesse ou à une explication. Je prévins cette intention en prenant tout de suite le bras de Monsieur de Valorbe pour l'emmener dans la chambre d'à côté, comme si j'avais eu quelques mots à lui dire. Cette familiarité amicale de ma part était si nouvelle pour Monsieur de Valorbe qu'elle lui fit tout oublier. Il me suivit avec beaucoup d'émotion. J'achevais de détourner ses observations en lui disant que mon cousin était absorbé par une inquiétude très sérieuse dont il venait m'entretenir. Je consentis à revoir M. de Valorbe le lendemain matin, avant l'absence d'un mois qu'il projetait. Et je lui laissai prendre ma main deux fois, quoique Léonce pût le voir. J'étais si pressée de faire partir M. de Valorbe que je ne comptais pour rien l'impression que pouvait faire ma conduite sur M. de Mandeville. Enfin, M. de Valorbe s'en alla, et je rentrai dans la chambre où était Léonce. Non, Louise, vous ne pouvez pas vous faire une idée du dédain et de la fierté de ces premières paroles. Je les supportais pour me justifier, plutôt, en lui racontant mes rapports avec M. de Valorbe, dans la plus exacte vérité. Et je finis en insistant plus particulièrement sur la reconnaissance que je lui devais pour avoir sauvé la vie de mon bienfaiteur, de M. d'Albémare. Il se peut, me répondit Léonce, qu'il ait sauvé la vie de M. d'Albémare, mais moi je ne lui dois rien, et nous verrons si je ne le fais pas renoncer au droit qu'il se croit sur vous, et que vous autorisez. Je fus blessée de cette réponse, et le souvenir de ce qui s'était passé depuis le retour de Léonce, ajoutant encore à cette impression, je lui dis vivement, « Vous flattez-vous de conserver un pouvoir absolu sur ma vie, quand tous mes jours se passent à repousser les plus indignes plaintes ?»« Il est vrai, répondit-il avec emportement, que je vous ai rendu témoin de mes souffrances, pardon de l'avoir osé. Mais avez-vous pensé que ce tort vous donna le droit de me trahir ? Vous êtes-vous cru libre parce que je suis malheureux ? Votre erreur serait grande, ou du moins, votre nouvel amant ne serait pas votre époux avant d'avoir appris quel sang il doit verser pour vous obtenir. » L'indignation me saisit à ces paroles, et ce mouvement, enfin, m'inspira ce qui pouvait apaiser Léonce. « Je vous conseille, lui dis-je, de vous livrer à ces soupçons qui nous ont déjà séparés quand nous devions être unis. Ils sont plus justes cette seconde fois que la première, car j'ai mérité de perdre votre estime le jour où, cédant à vos prières, j'ai renoncé à mon départ, et où je suis revenue dans cette retraite, me dévouer au coupable et funeste amour que je ressens pour vous. » À ces mots, Léonce perdit tout souvenir de M. de Valorbe. Il n'était plus irrité, mais je n'en espérais pas davantage pour notre bonheur à venir. Il ne me cacha plus ce que je n'avais que trop deviné. Il m'avoua qu'il ne pouvait plus supporter la vie tant que notre sort resterait le même, qu'il était jaloux parce qu'il ne se croyait aucun droit sur moi. Il me répéta cet odieux reproche avec désespoir. « Je le sais, me dit-il, je peux être mille fois plus malheureux encore qu'à présent. Il y a tant d'abîmes dans la douleur que son dernier terme est inconnu. Tant que vous ne m'avez pas abandonné, je vis, mais en furieux, en insensé. » J'allais l'interrompre pour le rappeler à des sentiments plus doux, lorsqu'on vint m'annoncer que le courrier de Madame d'Hervin était arrivé et la précédait de quelques minutes. Léonce voulut alors me quitter. « Je ne me sens pas en état, me dit-il, de voir Madame d'Hervin. Elle est à plaindre, je le sais. Cependant, j'ai besoin de me préparer à sa présence. C'est elle, je ne l'en accuse pas, mais enfin, c'est elle. » Il n'acheva point, me serra la main et partit précipitamment. Peu d'instants après son départ, Madame d'Hervin arriva. Hélas, combien elle est changée! Ses traits sont restés charmants, mais l'expression de son visage, sa pâleur, son abattement, ne permettent pas de la regarder sans attendrissement. Elle était si fatiguée que je n'ai pu causer avec elle ce soir. Et pendant qu'elle repose, ma Louise, je vous écris. Je veux aussi confier ma situation à Thérèse. J'espère en ses conseils, en son exemple. Secondez-moi de vos vœux.